VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 24 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, un mandat d'arrêt a été émis contre Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle de 2020.
En Guinée, l'opposition veut boycotter et empêcher les législatives du 16 février.
En République centrafricaine, de violents combats ont été signalés entre groupes armés dans la ville d'Amdafok, à la frontière avec le Soudan.
Les États-Unis ont rappelé leur ambassadeur en Zambie après les déclarations du président Edgar Lungu, selon lesquelles il n'était plus le bienvenu.
Washington salue un pas important et appelle Riyad à plus de transparence après la condamnation à mort de 5 Saoudiens pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, la justice a lancé un mandat d'arrêt international lundi soir contre l'ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle de 2020, Guillaume Soro. Il devait rentrer en Côte d'Ivoire, mais c'est au Ghana que son avion a finalement atterri. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Ce coup de théâtre intervient au terme d'une journée marquée par des interventions des forces de l'ordre pour empêcher les partisans de M. Soro de se rendre à l'aéroport pour l'accueillir, ainsi qu'au siège de son parti Génération et Peuple Solidaire GPS. Cette annonce survient également près de 24 heures après le départ du président français Emmanuel Macron de Côte d'Ivoire, où il était en visite ce week-end. L'ex-président de l'Assemblée nationale et premier ministre est accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, a annoncé lundi soir le procureur de la République d'Abidjan, Richard Adou, à la télévision publique. D'après lui, des éléments en possession des services de renseignement établissent clairement que le projet devrait être mis en œuvre incessamment sans donner plus de détails. Guillaume Soro est également visé par une information judiciaire pour détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA, selon le procureur. Guillaume Soro, 47 ans, a annoncé sa candidature à la magistrature suprême le 18 octobre. Il a longtemps été le meilleur allié du président Alassane Ouattara, qu'il a aidé à porter au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011 avec l'appui des forces rebelles qu'il dirigeait.
En Guinée, l'opposition a durci le ton hier en annonçant qu'elle boycottera les législatives du 16 février et qu'elle empêchera même la tenue du scrutin. Une nouvelle manifestation est prévue jeudi à l'appel du Front national de défense de la Constitution, Nathalie Barge.
Il ne s'agit pas de boycotter et de rester les bras croisés. Nous allons empêcher que ces élections aient lieu, a lancé Sélou d'Alain Diallo à l'issue d'une réunion des dirigeants d'une vingtaine de partis d'opposition. Il justifie cette décision par des divergences sur la révision du fichier électoral, affirmant qu'il y aurait eu un enrôlement massif de mineurs, tandis que de nombreux électeurs n'auraient pas été autorisés à s'enrôler. L'opposition juge que si ces législatives, reportées plusieurs fois, étaient organisées dans ces conditions, elles serviraient le projet attribué au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020. Jeudi dernier, M. Condé a confirmé un projet de nouvelle constitution par référendum, fixant le mandat présidentiel à 6 ans, contre 5 actuellement, renouvelable une fois. Une nouvelle grande manifestation est prévue jeudi à l'appel du Front national de défense de la Constitution qui orchestre la mobilisation depuis plus de 2 mois.
Le militant anticolonialiste franco-béninois Kémi Séba, fondateur du mouvement Urgence panafricaniste, a été interpellé samedi à Ouagadougou, a-t-on appris lundi de sources concordantes. Selon un responsable du front anti-CFA, c'était après une conférence publique sur le franc CFA. Il est accusé d'avoir tenu des propos outrageants à l'encontre du président Roch-Marc Christian Kaboré et de tentatives de démoralisation des éléments engagés dans la lutte contre le terrorisme. Kémi Séba aurait dit que le chef de l'État était une passoire politique et que si le président Kaboré ne prenait pas ses responsabilités, il serait châtié par la jeunesse, selon un avocat.
L'ancien premier ministre du Tchad, Kazembe Payimi Debe, actuel secrétaire général de la présidence, qui avait été arrêté début décembre, a été remis en liberté provisoire lundi, a affirmé un membre du gouvernement tchadien à l'AFP. M. Payimi Debe, qui est toujours en fonction malgré son arrestation pour détournement de fonds publics, a bénéficié de la liberté provisoire pour raison de santé, a indiqué à l'AFP le ministre de la Justice, Djimet Arabi.
En République centrafricaine, la ville d'Amdafok, située à la frontière avec le Soudan, a été une nouvelle fois le théâtre de violents combats entre deux groupes armés, combats qui ont duré de mardi à vendredi dernier. Des détails avec Bagassi Koura.
Depuis le mois de juillet, le FPRC, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, et le MLCJ, le mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, se disputent le contrôle de la ville de Damdafok, ville frontière par laquelle transitent les armes et les marchandises en provenance du Soudan voisin. En septembre, le FPRC avait été chassé d'Amdafok ainsi que de la ville de Birao, distante de 60 km par des éléments du MLCJ et des civils armés. Les combats avaient fait au moins une vingtaine de morts selon la mission des Nations Unies en Centrafrique. Depuis, des affrontements sporadiques continuent d'alimenter les tensions entre ces deux groupes. Mardi, le FPRC est repassé à l'offensive pour reprendre Amdafok avant que le MLCJ lance une contre-attaque vendredi. Pour l'instant, la situation sur place reste confuse. Les responsables des deux groupes armés affirment toujours contrôler cette localité particulièrement isolée où les acteurs internationaux sont absents. Le chef militaire du FPRC, Abdoulaye Hissène, évoque 8 morts parmi ces éléments. Son homologue du MLCJ, Ali Abderrahmane, parle de 4 morts dans ses rangs. Lundi, ni la MINUSCA et les ONG n'étaient en mesure de communiquer un bilan précis de ces affrontements.
Washington a rappelé son ambassadeur en Zambie, Daniel Foote, avait provoqué la colère des autorités zambiennes en critiquant l'emprisonnement d'un couple homosexuel. Précision de Michel Joseph.
L'affaire remonte au mois de novembre lorsque la haute cour zambienne condamne à 15 ans de prison deux hommes pour s'être engagés dans ce qu'elle a qualifié de relation sexuelle contre nature. Une décision judiciaire jugée horrifiante par l'ambassadeur Foote. Cela lui a valu les critiques du gouvernement zambien. Le président zambien Edgar Lungu avait fait savoir le 15 décembre qu'une lettre de protestation avait été adressée à Washington et qu'une réponse était attendue. Washington a décidé de rappeler l'ambassadeur Foote puisque le président Lungu ne veut plus travailler avec lui, a expliqué à l'agence Reuters une source à l'ambassade américaine de Lusaka ayant requis l'anonymat. Les États-Unis ne peuvent pas continuer de payer le salaire de quelqu'un dont le pays hôte ne veut plus, a souligné une autre source. Le ministère zambien des Affaires étrangères s'est pour sa part refusé à tout commentaire en rapport avec ce dossier. Lusaka reçoit des centaines de millions de dollars de Washington chaque année, notamment pour la lutte contre le VIH-SIDA. Comme plusieurs autres pays africains, la Zambie criminalise les relations homosexuelles comme taboues et les punit sévèrement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont estimé que la condamnation à mort de 5 Saoudiens par la justice saoudienne pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi était un pas important pour faire payer tous ceux qui sont responsables de ce crime terrible. Khashoggi a été tué en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le prince héritier Mohamed Ben Salman est soupçonné d'être le commanditaire du meurtre. Selon un haut responsable américain, Washington a encouragé l'Arabie Saoudite à engager un processus judiciaire juste et transparent. Et il a ajouté « Et nous continuerons à le faire ». La Turquie et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont-elles vivement critiqué la décision d'un tribunal de Riyad qui exonère notamment deux des principaux suspects.
John Bolton, le conseiller déchu du président américain Donald Trump à la sécurité nationale, a vivement critiqué lundi la stratégie nord-coréenne de son ex-patron, mettant en garde contre une menace imminente contre les forces américaines et les alliés. John Bolton est réputé pour être un faucon partisan de la manière forte avec le régime nord-coréen.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire a approuvé l'offre technique et financière d'1,36 milliard d'euros relative à la construction de la première ligne du métro d'Abidjan. Cette offre a été soumise par un consortium regroupant les groupes Bouygues, Alstom, Colas Rall et Keolis. Cette ligne doit traverser la métropole ivoirienne du nord au sud sur 37 km jusqu'à l'aéroport. La ligne, dont les travaux devraient débuter fin 2020, pourrait être mise en service en 2026. Le coût du projet sera couvert par des financements de la France avec un mix de prêts du Trésor et de fonds privés garantis par l'État français. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un plan de financement triennal de 2,9 milliards de dollars pour soutenir le programme de réforme économique de l'Éthiopie. L'accord, soutenu par la facilité élargie de crédit et la facilité élargie du fonds, vise à soutenir la mise en œuvre par les autorités de leur ambitieux programme de réforme et à catalyser le financement concessionnel des donateurs. Pour terminer cette minute écho, le gouvernement soudanais étudie la possibilité de lever les subventions étatiques sur l'essence et le diesel en vue d'équilibrer son budget. Le retrait des subventions sur les carburants pourrait aider à maîtriser les dépenses publiques. Il se fera progressivement et sera compensé par le doublement des salaires des employés d'État.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le gouvernement anglais prêt à sévir contre le racisme dans le foot.
Oui, interpellé par l'association des joueurs de football professionnels après les cris racistes lors du match entre Tottenham et Chelsea, le gouvernement anglais a indiqué qu'il n'exclut pas de prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour combattre ce problème. Dimanche, le défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger, a signalé à l'arbitre qu'il était visé par des cris racistes venant des tribunes quelques minutes après l'expulsion de l'attaquant de Tottenham, Son Heung-min, pour un mauvais geste sur le joueur allemand. Cela a occasionné une brève interruption du jeu et à trois reprises, le speaker du stade a fait des annonces pour demander que les cris cessent. Tottenham a promis de mener une enquête et que d'éventuels coupables seraient punis.
L'Atlético Madrid et Edinson Cavani d'accord pour un possible transfert.
L'Uruguayen s'est mis d'accord avec l'Atlético Madrid en vue d'un possible transfert en janvier si le Paris Saint-Germain accepte de vendre l'attaquant, selon le quotidien sportif espagnol Marca. Le contrat d'Edinson Cavani, 32 ans, s'achève en juin prochain, ce qui l'autorise à négocier avec n'importe quel club à partir du 1er janvier en vue d'une signature l'été prochain. Marca affirme que Cavani n'est pas content à 100% à Paris parce qu'il n'est pas titulaire permanent depuis l'arrivée à l'intersaison de l'Argentin Mauro Icardi qui a pris sa place dans le 11 titulaire. Si l'Uruguayen signait avant le 1er février à l'Atlético, il pourrait alors disputer la Ligue des Champions avec son nouveau club.
Giuseppe Iacchini, nommé entraîneur de la Fiorentina.
Oui, le technicien italien de 55 ans remplace Vincenzo Montella, limogé samedi après les mauvais résultats de l'équipe florentine, seulement 15e de Serie A. Iacchini, un ancien milieu de terrain, a évolué entre 1989 et 1994 pour la Fiorentina, jouant 127 rencontres sous le maillot violet. Il était libre depuis son limogeage d'Empoli, actuellement en Serie B en mars. Il a également dirigé par le passé la Sampdoria, Palerme, Sassuolo et l'Udinese. Battu 4-1 sur sa pelouse vendredi par l'AS Rome, la Fiorentina n'a pris que 2 points lors des 7 dernières journées.
Jermell Charlo a repris le titre WBC des Super Welter à Harrison.
L'Américain a récupéré le titre de champion WBC des Super Welter en battant son compatriote Tony Harrison, qui le lui avait subtilisé l'année dernière. À Ontario, dans la banlieue de Los Angeles, Charlo a mis à terre Harrison au 2e round, puis 2 autres fois au 11e round, avant que l'arbitre n'arrête le combat lors de cette avant-dernière reprise. Charlo compte désormais 33 victoires, lui qui avait concédé son unique défaite en décembre dernier à New York face au même Harrison. Il avait auparavant conquis le titre vacant des Super Welter WBC le 21 mai 2016 en battant John Jackson à Las Vegas et avait défendu sa ceinture victorieusement 3 fois. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Quelques-uns de ces résultats, Philadelphie et Détroit 125 à 109, Indiana et Toronto 120 à 115, Denver et Phoenix 113 à 111 et Houston et Sacramento 113 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le Fonds monétaire international a renvoyé à mars 2020 un deuxième décaissement qu'il allait effectuer à la fin de l'année pour appuyer la relance économique dans le pays. Selon les experts économiques, le gouvernement congolais traîne les pieds dans la mise en œuvre des réformes exigées par les FMI. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Brazzaville doit espérer jusqu'en mars 2020 pour recevoir le deuxième versement du FMI qui est en programme avec le pays depuis juillet dernier. Un renvoi qui n'a pas surpris Joe Washington Ebina, membre de la société civile, réagissant au message du président Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation.
Il n'y a pas de signaux, il n'y a rien de convenable pour dire que le FMI peut avancer. On attend cela. Le président de la République nous a habitués à des annonces, mais concrètement il n'y a rien. Donc le FMI va s'attendre à quoi?
Un sentiment mitigé que partagent de nombreux Congolais sur les comptes performances économiques du gouvernement. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier les faiblesses dans l'application de l'accord avec le FMI? Alphonse Ndongo, analyste économique, revient sur les 48 exigences du fonds.
La mise en œuvre de ces 48 mesures est graduelle. Et donc, nous avons réussi le premier examen qui a d'ailleurs permis que nous signions cet accord et qu'un premier décaissement soit fait. Maintenant, la dernière revue du FMI qui est arrivée chez nous en novembre dernier a constaté qu'il n'y avait pas assez d'engouement de notre part pour mettre en exergue la transparence, notamment des contrats que nous avons signés avec les traders.
Pour Clovin Hassen-Bozir, membre de l'ITIE, bien d'autres points n'ont pas permis au gouvernement de bien avancer avec le FMI.
Le Congo avait pris l'engagement de mettre en place la Commission nationale pour la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques et n'a pas été mise en place. La Haute Autorité pour la corruption n'a pas été mise en place. C'est parmi les éléments, entre autres, qui ont fait que, et aussi les engagements sur le paiement de la dette intérieure, la dette sociale, ça aussi, on a constaté que le gouvernement retardait. Bon, le gouvernement avait aussi, devrait mettre en place au niveau de la Banque centrale un compte unique de 13 pour que toutes les recettes de l'État soient orientées dans ce compte avant d'être utilisées ailleurs. Les acteurs à l'origine de la crise sont les mêmes qui veulent redresser la situation. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont mis le pays dans cette situation parce qu'ils étaient incapables.
Et pourtant, dans son discours, le chef de l'État s'est satisfait de l'accord conclu avec le FMI avant de rappeler que le Congo s'était engagé à respecter les engagements pris avec cette institution financière internationale.
J'ai instruit le gouvernement de prendre toute la mesure des enjeux en présence à travers les réformes à poursuivre ou à entreprendre, de tout mettre en œuvre pour tenir les conditionnalités contenues dans ce programme, de préparer les différentes revues dans les meilleures conditions techniques et organisationnelles.
Selon certaines sources, Denis Sassou Nguesso est en train de revoir son équipe de négociateurs face aux institutions financières internationales. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Lors de sa récente visite en Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi dernier la fin prochaine du franc CFA, une monnaie créée en 1945. Elle sera remplacée par l'écu. Outre le changement de nom, la réforme comprend la fin du dépôt de la moitié des réserves des pays africains concernés auprès du Trésor français, ainsi que le retrait de Paris des instances de gouvernance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit de l'UEMOA, où la France était présente. Pour une analyse, Eric Manirakidza s'est entretenu avec l'analyste économique et directeur exécutif adjoint de l'OCIWA, Ibrahima Aïdara. Il est basé au Sénégal.
C'est une étape assez importante dans le processus de réforme. Elle est importante, mais de notre point de vue, ce n'est pas une grande révolution. C'est comme si c'est tout à fait attendu. Rappelons que le contexte aujourd'hui dans la sous-région est marqué par une protestation et une élévation des voix des sociétés civiles et de la jeunesse ouest-africaine qui demandent aux autorités de nos pays de prendre leurs responsabilités pour déterminer avec indépendance notre politique monétaire, qui n'est pas possible jusque-là avec le contexte actuel du franc CFA.
Les mesures annoncées sont quand même significatives, mais il y a aussi des défis.
Le premier défi est qu'il y a un changement de nom, mais il ne faut pas se limiter au changement cosmétique, selon lequel on a changé le nom, mais les fondamentaux et disons les liens intrinsèques de domination existent toujours avec la garantie de stabilité et l'arrivée à l'euro de la nouvelle monnaie annoncée. Et l'autre défi, c'est comment est-ce que ça va s'arrimer avec le processus beaucoup plus global de la CEDEAO qui est dans la réforme de la monnaie unique de la sous-région.
Effectivement, le Nigeria dit qu'il est impossible d'avoir l'écho d'ici 2020.
D'après les critères de convergence qui sont établis, beaucoup de pays, pas seulement le Nigeria, ne pourront pas respecter ces critères-là. Et donc, 2020 est un horizon de départ, mais pas d'arrivée, où tout le monde, on va s'attendre à ce que tous les pays membres soient prêts pour aller dans la monnaie unique. Mais je pense que ça doit être considéré comme un point de départ. Il est clair qu'il y a beaucoup d'autres réformes à faire dans des économies différentes comme le Nigeria et tant d'autres pour, arriver à cette convergence.
L'annonce d'Abidjan est perçue comme une annonce isolée, non concertée par d'autres pays de la CEDEAO. Ça va, disons, compliquer la suite.
Je pense que c'est politiquement voulu pour diluer la vertu de la réforme proprement dite de la CEDEAO et avoir toujours l'influence de la France sur le nouvel ordre économique de la sous-région qui se dessine avec la monnaie unique. Si c'est concerté au niveau de l'UEMOA, je ne suis pas sûr que ce soit concerté au niveau de la CEDEAO de façon globale et ça amène des risques de complications et d'arrimage entre les deux concepts, l'écho de l'UEMOA et l'écho de la CEDEAO dont la plupart des citoyens ouest-africains s'attendent véritablement qui doit relancer, faire progresser l'intégration régionale.
Eh bien, c'était Ibrahima Aïdara, analyste économique et directeur exécutif adjoint de l'OSIWA, joint à Dakar.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, Washington Forum revient sur les grands sujets qui ont fait l'actualité durant l'année 2019 en Afrique. De la recrudescence des attaques djihadistes dans le Sahel à l'élection de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, en passant par le débat sur le troisième mandat qui fait rage dans certains pays ou encore la réforme du franc CFA. Quel événement vous a le plus marqué durant cette année 2019 et pourquoi? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-nous ce jeudi à 19h, temps universel.
Au Sénégal, c'est une loi très attendue, celle criminalisant le viol. C'était une promesse du président Macky Sall en juin dernier, suite à une année marquée par une forte mobilisation de la société civile sur cette question. Depuis ce lundi, un projet de loi est étudié par la commission technique de l'Assemblée nationale, mais il fait débat parmi les associations de défense des droits des femmes. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage à Dakar d'Alison et Alexis Lekogo.
Victime de viol alors qu'elle n'avait que 15 ans, Radi, c'est comme ça que nous l'appellerons, s'est tue pendant 7 longues années. C'est l'un de ses professeurs de collège qui a abusé d'elle. Mais au Sénégal, le viol est un sujet encore tabou dans de nombreux milieux et la loi du silence prévaut souvent.
Ça va, assieds-toi.
Je ne pouvais pas vraiment pas dire à ma mère tout ce qui s'est passé. Je n'avais pas confiance non plus à mes amis pour en parler. Moi, je vis dans une famille nombreuse. Mon père a 3 femmes. Comment ils vont passer de moi? Comment je vais devenir? Après, je me dis que c'était mieux de vivre comme ça, de continuer.
Il y a quelques mois, elle ose enfin briser le tabou auprès de cette association, Youth Women for Action.
Parce que ça devient souvent ces images de ce que tu avais vécu.
Tout comme de nombreuses autres organisations de la société civile, IWA milite pour un changement du code pénal sénégalais en ce qui concerne le viol. Puisqu'à aujourd'hui, il est considéré comme un simple délit. Alors il y a quelques semaines, la récente annonce d'un projet de loi criminalisant le viol a été reçue comme un soulagement.
Nous avons besoin que ça change, nous avons besoin d'être en sécurité. Pour dire vrai, les filles ne sont pas en sécurité, les femmes ne sont pas en sécurité. Et qu'aujourd'hui, voir qu'il y a ces sanctions qui sont là, qui peuvent protéger les victimes, donc ça nous rassure.
Mais à la lecture du projet de loi, c'est la douche froide pour les associations. Le viol n'est criminalisé qu'en cas de circonstances aggravantes. Autrement dit, viol ayant entraîné la mort, une mutilation ou encore une infirmité, pour l'Association des juristes sénégalaises, le viol en tant que tel n'est donc pas criminalisé.
Lorsque on fait une analyse des peines qui devraient être prononcées ou qui sont prévues plus exactement, on se rend compte que finalement, avec disons le jeu des peines planchées, on arrive à une peine qui est semblable à celle qui existait avec la loi de 99.
À travers ces 7 boutiques de droit installées dans le pays, l'Association des juristes sénégalaises a recueilli 1206 cas de violences sexuelles entre janvier et octobre 2019. Elle compte militer pour que le projet de loi soit amendé avant son passage à la commission des lois de l'Assemblée nationale.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Haki Ardeniz est arrivé à New York en provenance du Moyen-Orient il y a plusieurs années. Autrefois sans abri, il est maintenant millionnaire. Mais il est retourné dans la rue, cette fois-ci pour aider ceux qui ont moins de chance que lui. Reportage d'Anna Nelson, repris ici par Gaby Dorsil.
Le millionnaire Haki Ardeniz est toujours occupé. Il vit dans un petit appartement new-yorkais, bien qu'il puisse facilement s'offrir un penthouse et une Bentley.
Je ne rêve pas de gagner plus d'argent. Je rêve de ce que je peux léguer. L'important, ce n'est pas combien on possède. Je suis une personne très simple, croyez-le ou non. Ma montre coûte peut-être 100 dollars. Puis-je acheter une Rolex? Oui, absolument. Mais pourquoi?
Ardeniz, 39 ans, est né dans une famille kurde de 17 enfants. À la recherche d'une opportunité, il a déménagé au Canada durant son adolescence et en 2001 s'est rendu à New York à la recherche d'une vie meilleure. À son arrivée, il a tenté de contacter un ami américain qui avait promis de l'aider, mais ce dernier n'a pas décroché le téléphone.
Je ne devrais pas oublier ce jour parce que c'était le jour le plus important de ma vie quand je suis venu ici.
Un hôtel bon marché, un banc dans une gare, le prochain arrêt était un refuge pour sans-abri, appelé Mission Bowery, où Ardeniz a passé 3 longs mois.
Nous étions peut-être 25 à 30 à dormir dans ma section. Les gens pensent que c'est facile de vivre dans un abri, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la liberté.
Il a réussi à trouver du travail dans une pizzeria où, en plus de faire la vaisselle, il a appris à découper correctement la pizza, puis à la faire cuire. Ardeniz travaillait 19 heures par jour, essayant d'économiser chaque centime. Des années plus tard, il avait économisé suffisamment pour acheter sa propre pizzeria. Avec des centaines de ses restaurants dans la même ville, cela n'a pas été facile. Puis, il a remporté un concours de pizza et un magazine a imprimé un article avec ses photos. C'était le début de sa popularité et de son succès.
Qu'est-ce que cela m'a fait d'être célèbre? Mes gars ont dit « Waouh, les gens viennent, les gens ont acheté le magazine, ils ont pris des photos avec nous. Il y avait même une file d'attente dehors. » Dieu m'a béni et j'ai ouvert un deuxième restaurant.
Son surnom de champion est devenu le nom de sa chaîne qui compte désormais 14 restaurants. Ardeniz est devenu célèbre, il a pris la parole à l'ONU, son compte Instagram est suivi par 4 millions de fans et la vidéo où il nourrit les sans-abri a enregistré 400 millions de vues. Il n'a jamais oublié ce que c'est que d'être sans-abri à New York. Et tous les mercredis, il revient aider. L'argent va et vient, dit-il. Et sa seule valeur ne peut être mesurée que par ce qui reste après qu'on l'a dépensé. Un sourire, un câlin, mais surtout de l'espoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.